C'est une belle émotion que vous avez pu découvrir ce soir sur la chaîne L'Équipe, la victoire de la Colombie avec un but de Muñoz qu'on verra dans quelques minutes dans le journal de Romain Aran contre l'Espagne, donc grande Europe. Bravo la Colombie. Toutes les images de toute la soirée, eh bien, c'est évidemment dans L'Équipe du soir. J'ai oublié la formule. Bah oui, c'est L'Équipe du soir. Bonsoir. Présentation express avec tous nos invités. Ce soir, le président. Et là, c'est l'élégant de L'Équipe du soir dans votre vie de peuple, mon cher Joanne Micou, Pia Clément, Grégory Schneider, Timothée Mémon et Frédéric Verdier. Bonsoir, monsieur, dame.
Bonsoir.
Bonsoir,
les... Ouais, bah, il y a vraiment la The Voice là, qui est là. Et puis, qu'est-ce que c'est que c'est quoi? Bonsoir, monsieur, dame.
Bonsoir, bébé.
Et bonsoir. Ouais, ouais, ça, ouais. Romain Aran, bonsoir. Pour toutes les infos, les indiscrétions, c'est, voilà, c'est avec votre fameux jingle. Il n'est pas encore minuit, vous n'êtes pas encore encrypté. Bonsoir, Romain.
Bonsoir, bébé.
France-Allemagne, demain à Lyon, est-ce beaucoup plus qu'un match amical, car c'est contre l'Allemagne que les Bleus ont subi leur dernière défaite, car l'Allemagne, c'est le pays organisateur de l'Euro en juin, car France-Allemagne, c'est un des grands classiques du football de sélection. Alors, est-ce beaucoup plus qu'un match amical? Oui ou non? Deux chroniqueurs sont pas d'accord. Jingle. Il dit non, c'est Grégory Schneider. Il dit oui, c'est Frédéric Verdier. Frédéric, vous me répondez oui, beaucoup plus qu'un match amical. Bah alors, c'est quoi, Frédéric? On vous écoute.
Bah, c'est juste une rivalité à la fois historique, politique, surtout sportive. Et c'est une quantité de matchs absolument incroyable dans le souvenir de tout le monde. Et puis surtout, c'est le match des matchs. Séville 82, tout part de là. Il y a eu des matchs France-Allemagne avant, il y en aura eu ensuite. C'est aussi une formation qu'on reçoit et chez qui on va très souvent. Et même les matchs amicaux, bah, c'est pas des matchs amicaux parce que l'Allemagne, avec ses frappes, avec son intensité, avec son goût des duels, l'Allemagne a toujours su mettre suffisamment de tout ce qu'il faut pour que ce soit justement pas des matchs amicaux.
Sortez le sel, il est au bord du chaos. Non, ils réagissent plus qu'un match amical. Vous répondez non, pourquoi?
Oui, alors je savais pas qu'on jouait à la fois la revanche de 14-18, de 39-45 et les dents de Batiston qu'on va exhumer. Là, franchement, je suis quand même un peu sidéré. Donc on n'habite pas au même étage qu'eux déjà. Hein. Il y a deux éliminations au premier tour du mondial et un huitième de finale lors du dernier Euro qui était pour le moins piteux. C'est une équipe en crise qui se refait. Donc c'est bien gentil, mais il y a alors tout ce beau monde a quand même des tours de Coupe d'Europe dans deux semaines, donc faut aussi relativiser. Plus qu'un match amical, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il me semble clair que c'est pas grand chose.
Oh bah vous avez fait plus court, mon petit Grégory, c'est rare pour vous souligner, mais c'était
Bon,
bien. Non, c'est bien, le 14-18, 39-45 et les dents de Batiston. Bah. Ça, pour un peu de gros, en moins de 30 secondes, bravo. Est-ce beaucoup plus qu'un match amical? Si c'est oui, c'est Fred. Si c'est non, c'est Greg. Et si c'est le président, c'est Johan.
J'ai envie de rejoindre Fred, en fait, parce que je trouve que ça reste quand même un match... Plus qu'amical, à chaque fois, le France-Allemagne, ça reste. Il y a l'histoire, et puis c'est une Allemagne très très malade. Donc c'est aussi pour l'Allemagne de voir à quel niveau ils peuvent être face à un grand du football mondial actuel qui est la France. Et juste avant son euro à la maison, je pense que c'est plus. Pour moi, on va avoir un peu des. Quelques informations supplémentaires sur. Bon, la France, on a quelques certitudes quand même, mais l'Allemagne se cherche vraiment. Et je pense que c'est un vrai match demain et je mettrai le point à Fred.
Ok. Dernière défaite des Bleus, toutes séries confondues, c'était contre...
Greg est d'accord avec moi.
Hein?
Ouais, si, il dit oui.
Non, mais regardez la dernière défaite des Bleus, c'était contre l'Allemagne, c'était à Dortmund, c'était en septembre, le 12 précisément. Ce soir-là, les Bleus avaient été vraiment mais bousculés, trimballés. Pendant 3 minutes 28, le but de Müller arrive dès la 4e minute. Didier Deschamps avait dit que le début de match a été catastrophique. Ce soir-là, ça n'avait pas forcément été un match amical, donc notamment pour les Allemands, qui venaient de licencier Flick, c'était Voleur qui était sur eux. Et pourtant, les Bleus ont dit en conférence de presse, sentiment de revanche, non, pas du tout et tout ça. Donc, il n'y a pas de sentiment de revanche, mais on sent quelque chose, on va dire, un petit peu différent. Mais plus pour les Allemands, pour les Français, non, Pia?
Parce qu'ils sont dans une phase beaucoup plus décisive que nous, parce qu'ils ont eu beaucoup de difficultés, parce qu'ils organisent l'Euro cet été et qu'ils n'ont vraiment pas intérêt à s'afficher. Donc et en plus, ils viennent de changer de coach, donc ils ont beaucoup plus de stress de leur côté. Après, je trouve que du côté de la France, il y a quand même beaucoup de choses vraiment intéressantes à regarder dans ce match. Il y a de voir ce que ça va donner Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain, alors qu'il a joué, si je me souviens bien, que 17 minutes. En tout et pour tout contre Gibraltar et qu'il a mis quand même un but. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner à la place de Griezmann.
Ce soir-là, tout le monde marquait, mais enfin, c'est
Gibraltar. Ouais, mais bon. Voilà quoi, il avait 17 ans. Voilà, il y a Pavard et puis il y a Thuram aussi dans l'axe que j'ai très très hâte de voir avec Mbappé et Dembélé. Et je pense qu'il y a, enfin, il y a quand même. Ça reste un match amical, mais c'est un match amical qu'on attend avec plaisir.
Ah, d'accord, oui. Ok. Voilà. Mais c'est pas plus qu'un match amical.
Mais c'est pas grand chose, comme l'a dit Grégory.
Non, mais Thuram, on est dans le cadre d'un match amical. Là, c'est plus qu'un match amical. Non mais voilà, c'est donc Thuram effectivement,
il y a
des
essais.
Mais si, on dit oui, mais il va pouvoir faire des essais parce que c'est un match amical. Oui, non. Donc ça n'est pas plus qu'un match amical. C'est juste... oui.
Non mais l'idée d'avoir plus qu'un match amical, c'est soit essais. Sur la symbolique, c'est ce
des
que
des essais, c'est quoi pour toi?
Ouais, de mettre
Thuram dans l'axe. C'est pas un essai.
C'est pas laisser l'avenir. C'est pas un essai.
Non, mais
c'est l'avenir.
Non, mais par exemple sur Konaté et Pavard, il joue peut-être quelque chose.
Que c'est un match officiel demain. Il met pas Thuram dans l'axe.
Ah si. Je pense qu'il attend qu'un mec s'installe. Il est pas interdit.
Tu
penses qu'il attend Thuram
s'installe?
Bah t'as Giroud.
Oui, non mais Giroud, ça va être pour moi le remplaçant de l'équipe. Il ne peut pas assumer tout l'euro titulaire, non? Enfin, selon moi.
37 ans.
Ça va être un super sub, ça va être. Ou s'il commence le match, il jouera une heure.
Mais Thuram n'a pas non plus des références phénoménales à ce poste.
Il n'a pas joué jusqu'à présent.
Donc c'est à lui d'affermir sa position. Ah, c'est ça que je voulais
dire. Oui, non, mais par rapport au trio, si on veut mettre Colomboigny dans l'histoire, là aujourd'hui, Thuram a un petit peu d'avance.
Oui, c'est vrai.
Même si en bleu, il a un peu moins l'occasion de le montrer.
Il ne peut pas non plus complètement se rater.
Président, vous n'avez pas encore entendu la douze voix de votre dernier sujet, Timothée Mémon.
Je lui donne deux minutes, s'il veut.
Deux minutes ?
Non. Je vais pas revenir, mais enfin, de toute façon, ça peut pas être un simple match amical, ça peut pas être un petit match amical quand on est si près d'une échéance aussi importante que l'Euro. Donc, évidemment, sur le plan sportif, ça va avoir un impact. On a envie de voir certains joueurs, on a envie de voir ce que Didier Deschamps va mettre en place. Et puis, sans revenir à des...
C'est ce premier argument. Je vous écoutez, hein, mais je vous relance, hein. Vous avez encore la main, je vous coupe, mais pour mieux vous relancer. Imaginez, demain que la France perde. Donc pour l'euro, il y aura des choses, il y aura des inquiétudes, on va tout remettre en cause ou pas?
Non, on remettra pas tout en cause, mais s'il y a des fêtes comme s'il y a victoire, il y aura des enseignements, et des enseignements importants quand on est aussi proche de l'échéance.
Vous savez quoi,
il doit rester trois matchs après celui-là.
Voilà. Bah, un dernier match avant la liste et puis deux matchs.
Voilà.
Bon, l'enseignement, c'est bon, bah, sans Griezmann, vaut mieux avoir Griezmann. Quoi.
Non, ça va être simple. Je pense qu'on aura le temps de faire le sujet demain.
Non, mais il va être là. S'il y a des fêtes, on va dire bah, écoutez, Griezmann n'était pas là, Griezmann machin. Enfin, peut-être que ce sera une bonne ou une mauvaise analyse, mais
il y aura un contenu aussi. Il y a un contenu. Les victoires défaites, il y aura un contenu quand même.
Oui.
Je voulais juste aller sur un autre point, celui de la symbolique. Je suis désolé, on peut pas l'écarter. Alors, je reviendrai pas à des considérations géopolitiques, mais simplement sportives. Pour toute une génération, à partir de 76 et de la finale perdue par Saint-Étienne, l'Allemagne, en club ou en sélection, ça a toujours été une bête noire pour les Français. Il y a des épisodes, celui de Battiston entre autres, mais il y a des épisodes très douloureux. Et je pense que pour toute une génération, peut-être un peu plus âgée que la mienne, ce match reste un match important et un match à ne pas perdre.
C'est moins le cas depuis quelques années.
Oui, mais ça reste jamais anodin.
C'est moins le cas, mais c'est pas anodin.
Et souviens-toi d'ailleurs, même certains matchs amicaux contre l'Allemagne, on voit des joueurs qui n'ont pas une carrière incroyable en bleu. Je pense à Lacazette, à Areola, qui fait un match, sans doute son meilleur match en bleu, où il arrête tout. Même les matchs amicaux, ils sont sublimés quand c'est l'Allemagne en face.
Sur les enseignements, il y a un truc. En 2018, on perd contre la Colombie 3-2, Umtiti est nul, t'as pas les mêmes latéraux. Je veux dire, c'est pas vrai qu'il y a des enseignements qui ensuite se reportent sur la compétition suivante. C'est pas vrai. Une équipe, elle se fait pendant la compétition. Les équilibres se font pendant la compétition. Ils se font même pas l'avant-veille et ils se font encore moins deux mois avant. Regardez ce qui s'est passé.
Non, Umtiti, ça lui a pas.
Oui, mais même le comportement, Umtiti, on s'est dit, on va faire. Moi, j'étais là, on dit, on va le faire sauter contre la Colombie, c'est pas possible. Et ben, il a été monstrueux, Greg, c'est pas pareil.
Greg, ce que vous dites, c'est une généralité ou c'est propre à Didier Deschamps?
Je pense que c'est une généralité parce que tu trouves toujours ton équipe pendant. Alors l'exemple le plus fou, c'est la Côte d'Ivoire. Il y a un mois, c'est l'exemple le plus extrême. Mais tu trouves toujours ton truc pendant. Quand il part avec les deux gamins, Hernandez et Pavard en 2018, moi je me suis dit, mais qu'est-ce qui... Et ça l'a fait. Parce qu'eux, en situation, ils ont répondu. Tu réponds en situation, c'est le sport, c'est pas moi qui... Mais voilà, ça me semble un peu exagéré.
La Côte d'Ivoire n'est pas un bon exemple parce qu'avant la compétition, ils avaient des résultats plus que probants lors des précédents compétitions, ils gagnent leur premier match. Les deux défaites qui s'en sont suivies, c'est un épiphénomène.
Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut trouver quelque chose pendant. Les équilibres se font pendant. Ils se font jamais avant. Et encore moins de deux mois avant. Vous verrez, ça se fait.
Dans ce cas-là, c'est pas que les matchs amicaux ou les éliminatoires.
Exactement.
C'est-à-dire que rien ne sert, c'est uniquement la compète.
Exactement.
Moi, c'est surtout. Oui, mais bon. C'est surtout
l'Italie qui est championne d'Europe il y a trois ans.
Non, mais tu crées ton équipe ou 80% de l'équipe quand même sur les matchs qui se passent avant la compète. Après, il y a des ajustements sur pendant la compétition, et ça, je te rejoins, sur certains postes ou certains joueurs qui peuvent se dévoiler sur le moment. Mais après, tu fais pas ton équipe juste là d'un coup. T'arrives à l'Euro et tu vas dire bon, mais on va tout changer.
Il y a quelque chose d'après. Regardez avec quelle équipe Deschamps termine sa Coupe du Monde. C'est absolument.
C'est des rentrées de joueurs aussi.
Mais c'est des mecs.
Sur la finale, le 11, c'est quand même la base, non?
Oui, mais c'est des mecs.
Depuis les années précédentes.
Non, parce que c'est des mecs qui ont trouvé des solutions.
Il n'y a pas Benzema, il n'y a pas Lucas Hernandez, il y a des blessures.
Excusez-moi, vous confondez le coaching. Un coaching qui a failli être payant. Et la montée en puissance, comme on a vu lors de la Coupe du Monde 2018 avec Matuidi qui est ailier gauche contre le Pérou. Et là, le socle est fait.
L'état d'esprit de l'équipe.
Vous êtes sorti de votre angle.
Non, c'est pas l'état d'esprit, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que tu. Ce sont les compétitions qui font les joueurs.
Ce sont les compétitions qui font les joueurs.
C'est-à-dire qu'à un moment.
Sur votre dernier exemple, c'était. Vous sortiez un peu de votre
angle.
Attendez, mes petits.
Prends la Coupe du Monde au Mexique avec Henri Michel. Le 11 de départ, il est fait avant la compétition et il bouge très peu pendant toute la compète, jusqu'en demi-finale et même jusqu'à la
troisième place. Non, parce que tu as des joueurs qui ont pris une dimension tout autre pendant la compétition.
Très peu, ton milieu de terrain, il ne bouge pas. C'est les quatre mêmes mecs pendant toute la compète.
Là, on peut.
Fernandez, Tiganage, il reste petit.
On va pas remonter à.
William Ayache. Donc tu dis jamais. C'est pas vrai, c'est pas jamais.
William Ayache, grand truc. Vous êtes bien sur ESPN Classique, on va revenir sur la chaîne que vous adorez. Sur les infos et sur la compo probable, qu'est-ce qu'on a? Pas forcément de surprise, hein?
Non, pas de surprise, puisqu'on a parlé des choix de Didier Deschamps pour ce match. Quelques choix contraints aussi. C'est pour ça qu'on connaît déjà, a priori, la composition d'équipe de l'équipe de France. Donc, Brice Samba dans le but, puisque Mike Maignan est forfait. Koundé, Pavard, Upamecano, Lucas Hernandez en défense. Tchouaméni en sentinelle. Warren Zaïre-Emery à la place d'Antoine Griezmann au milieu de terrain. Et donc, Adrien Rabiot, troisième joueur au milieu de terrain. Et donc, devant, Ousmane Dembélé à droite, Marcus Thuram en pointe et Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus, à gauche.
Mbappé répond, enfin il était aujourd'hui en conférence de presse, il a répondu aujourd'hui à notre question, c'est plus qu'un match amical. Vous allez voir, ça arrive à la fin.
Il faut montrer les muscles cet été, c'est le plus important. C'est sûr que demain c'est un bon test, une belle préparation, parce que c'est une équipe qui, pour moi, est l'une des meilleures du monde, même s'ils ont eu des derniers résultats qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils sont, mais ils sont toujours là, les Allemands seront toujours là.
Rédacteur en chef Kylian Mbappé, merci beaucoup. C'est un test, donc c'est un test match. Donc c'est le rugby, c'est pas un match amical, pas un match de compétition, c'est un test match.
Ouais, la meilleure équipe du monde, faudrait quand même penser à faire un petit résultat de temps en temps, à passer un tour en Coupe du Monde. Juste ça.
Vous venez critiquer Kylian Mbappé ?
Je travestis pas ça.
Grégory ! Bah, ce qui vous arrive,
si t'es pas en huitième de finale, t'es pas dans le top 16. Donc l'une des meilleures, c'est-à-dire que t'es 17.
Après, juste un truc, ce qui est sûr, c'est que pour les supporters, ça fait une vraie différence le fait qu'on soit à deux mois de l'Euro. C'est clair que nous, quand on attend le match, je pense que c'est peut-être aussi ce que tu voulais dire, Timothée, mais on n'attend pas le match de la même façon que le match qu'on a perdu au mois de septembre contre l'Allemagne, où là, on était vraiment beaucoup plus distanciés, quoi. Là, c'est pas le cas.
Ah. Là, on a tous conscience qu'on va tout droit vers l'Euro. Mmh. Ça donne forcément plus de sel, ça donne un côté un peu test-match. Là où je te rejoins sur les mises en place, c'est sûr qu'avec Didier Deschamps en place depuis la nuit des temps, c'est pas sur ce rassemblement qu'ils vont apprendre comment joue Deschamps. Ça, je suis d'accord. Effectivement que pendant la compétition, va se créer le petit truc en plus qui va faire ce qu'il va gagner.
Il va falloir.
Mais pas des concepts globaux, quoi.
Résultat duel, à présent, s'il vous plaît, Grégory Schneider ou Frédéric Verdier. On y va.
C'était serré.
Plus qu'un match, la dent de Baptiston. 14-18, 39-45, vous avez été balayé par l'histoire, mon cher Chédé.
La ligne bleue des Vosges.
Il manquait 2-3 trucs.
Dernier euro et peut-être la retraite internationale. Pour Olivier Giroud, c'est la déduction de l'info que vous allez donner, mon cher Romain.
Mais oui, on verra si Olivier Giroud dispute le match contre l'Allemagne. Mais en tout cas, c'est peut-être une tournée d'adieu qui démarre, puisque selon l'équipe, Olivier Giroud va s'envoler pour Los Angeles l'été prochain. Il devrait s'envoler pour Los Angeles et rejoindre Hugo Lloris. On rappelle qu'il sera en en fin de contrat à l'AC Milan, donc libre de s'engager où il veut. Et a priori, la tendance est donc un départ en Californie, en MLS, qui pourrait quand même très probablement, à 37 ans, quasiment 38, sonner le glas de sa carrière internationale.
Alors match amical plus que match...
Même s'il part en Real. Même s'il part en Real.
Je ne suis pas Didier Deschamps, je prends des précautions oratoires, Grégory Schneider.
Oui, t'as peut-être raison, effectivement, avec Deschamps, mais bon.
Avec Giroud, j'ai appris à me méfier, si
bah oui.
Je me permets. Parce que tu es alors là, il est toujours revenu par la fenêtre, tu sors par la fenêtre, il revient par la
fenêtre. À 38 ans,
avec Deschamps, oui, voilà, oui.
Il n'ira pas, il ira pas aux États-Unis à 40. Quoi.
Voilà. Mais avec Deschamps, un garçon qui quitte le continent européen en général,
c'est pas
aucune chance. Qui s'appelle Gignac, qui s'appelle Matuidi, ou qui s'appelle Giroud,
Kanté,
ou Loris,
Kanté,
ou Benzema.
Kanté, ou Benzema. Enfin bref, là, les exemples sont innombrables.
Fredo, il est aigu avec vous, mon cher Grégoire. Hein. Il ne vous lâche pas ce soir. Hein. À surveiller, évidemment, juste après la pause, on retrouvera le couple infernal Schneider-Verdier. Il y aura aussi toutes les images, notamment la victoire des Espoirs. Le match de l'Algérie qui affrontait la Bolivie, tous les autres matchs. Et avec un but superbe de Munoz ce soir en Angleterre, c'était contre l'Espagne, victoire de la Colombie. A tout de suite. L'équipe du soir, la pause pub nous permet de mieux se connaître. Nous faisions un point avec la vie sentimentale de Grégory Schneider. Tout va bien, regardez, il rayonne. Grégo, ça va, tout va bien?
Très bien.
Hein, très bien, voilà.
Regardez, ça a l'air.
Le mec rayonne. Et les amis, on est en direct jusqu'à 1h. On fait un petit décrochage du côté de la case info. C'est le minuit info de Romain Aran. Ce soir, les Espoirs ont fait l'essentiel. Victoire contre la Côte d'Ivoire après deux défaites. Hein. Restez sur deux défaites, les Bleuettes, Thierry Henry.
Oui, on peut dire que ça s'est vu quelque part parce que ça a été compliqué ce match amical entre la France Olympique de Thierry Henry et la Côte d'Ivoire. Les Français qui vont ouvrir le score un petit peu contre le cours du jeu avec Désiré Doué qui va profiter d'une mésentente entre le défenseur et le gardien ivoirien pour marquer le but du 1-0 à la 38e minute. Le Rennais Désiré Doué. Un petit peu chaotique, on va dire, cette action. Mais à l'arrivée, ça fait but et ça a surtout fait du bien aux Bleuets à ce moment-là du match. Mais les Ivoiriens qui vont réagir au retour des vestiaires. 46e minute, regardez cette très jolie action dans la surface. La talonnade, elle est signée Benny Traoré, le joueur de Nantes. Et la conclusion pour Abdoulaye Traoré. Un partout.
Il était bon, ça.
49e minute, c'est vraiment juste après. C'est Bafodé Diakité qui va être bousculé dans la surface. Pas de faute et ça profite à Mohamed Bamba, le Lorienté.
Et le gardien.
Cherki est entré. Il lance Wilson Odober à la 72e minute. Le ballon passe entre les jambes du gardien. Ça fait deux partout. Et les Français qui vont aller chercher la victoire. Regardez ce joli contrôle de Désiré Doué qui va inscrire un doublé avec cette frappe du pied gauche. La mauvaise nouvelle de la soirée, on va quand même le préciser, malgré cette victoire 3-2, alors que l'on revoit le joli but de Désiré Doué, la mauvaise nouvelle de la soirée, c'est la sortie en première mi-temps de Bradley Barcola, le joueur du Paris Saint-Germain, qui est touché à l'ischio de la cuisse gauche. Et on en profite pour dire qu'il y aura un autre match amical, ce sera lundi sur la chaîne L'Équipe, entre la France et les États-Unis, ce qui est aussi l'affiche du premier match des Jeux Olympiques.
Complément l'information de Giovanni Castaldi, notre envoyé spécial, Barcola est resté avec les Espoirs, examen demain et plus si affinité, soit finalement la déchirure est confirmée, il rentrera. Mais pour l'instant, il reste en attendant les examens. Est-ce une victoire signée Thierry Henry, puisque Henry a fait du coaching? Les Bleus ont été menés 2-1, finalement une victoire 3-2. Est-ce une victoire signée Henry? C'est le débat du Minuit Info. Jingle, s'il vous plaît. Et l'un jingle, un super duel, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir. Ouais. Ils ont répondu non, c'est Grégory Schneider et Frédéric Verdier. Ils étaient ennemis, rivaux dans la première partie. Ils sont associés. Qui commence? Est-ce Fred, votre vainqueur, ou Greg, le perdant? Ouais. Très bien. Ok, très bien. Pia et Tim, qui commence? Pia Honor ou Timothée? Honneur aux dames. Est-ce une victoire signée Thierry Henry? Oui. Pia, vous avez 30 secondes, hein, grugez pas trop de temps. Pia, allez, à vous de jouer.
Bah, le truc, c'est que c'est pas moi qui le dis, ni Timothée, c'est Thierry Henry lui-même, parce qu'il a dit vraiment en sortant du match, il a dit que la responsabilité de la mauvaise première mi-temps, c'était la sienne. Il a dit que dès qu'il était repassé en 4-3-1-2, ça avait changé complètement le match. Il a dit qu'il a, à son goût, il était repassé trop tard dans ce schéma tactique. Et par ailleurs, si Cherki brille, il est clair et net que c'est parce que Thierry Henry sait le faire briller, sait le mettre en confiance et sait lui donner envie de produire un bon football. Donc on a vu des accolades, on a vu des mots dans l'oreille et on a vu des joueurs qui avaient envie de jouer au foot. Et
on a vu 25 secondes, 24 secondes qui restent pour le copain. À vous, Greg Schneider.
Alors le terrain appartient aux joueurs jusqu'à preuve du contraire, il appartient pas au coach. S'il a à un moment donné fait un coaching gagnant, c'est qu'il s'est trompé au départ. Donc et il n'a pas été particulièrement réactif parce qu'il aurait pu bouger dès la mi-temps, puisque la première mi-temps est catastrophique et il a fallu qu'il en prenne deux. Donc je pense pas qu'on puisse dire ça. C'est un match, si vous inversez les gardiens, parce que on a vu le gardien ivoirien, c'est juste pas possible. Si vous inversez les gardiens, on en prend 4, on perd 4-1. Donc je vois pas ce qu'il vient faire dans l'équation. Ça me semble vraiment abusif. N'oubliez jamais quand même à un moment donné que ce sont les joueurs qui jouent et pas les coachs.
Ok, on a peut-être oublié l'essentiel, n'est-ce pas Timothée ?
Je rejoins paradoxalement Grégory sur le fait que le péché originel, c'est la mise en place de Thierry Henry. Il a su la transformer, justement, son équipe. Il a su faire du coaching, donc en ce sens-là, sa victoire. Mais il y a aussi les choix qui sont faits. Tu dis, si on change de gardien, il a décidé de mettre Lucas Chevalier plutôt que Guimaraes. C'est un des choix qu'il a fait sur ce match-là. Et Lucas Chevalier, il te fait un grand match et il te permet de ne prendre que deux buts alors qu'effectivement, tu aurais pu en prendre plusieurs. Donc, là...
Merci Timothée, vous avez les lunettes, vous voyez le chrono. S'il vous plaît. Fred Verdier, conclusion.
Si ça avait été une victoire signée Henry, il aurait tout bien fait, ou en tout cas il aurait fait beaucoup de choses. Il est loin d'avoir tout bien fait, Thierry Henry. Il l'a dit lui-même, et Pierre l'a rappelé, il a réagi beaucoup trop tard. Ils étaient totalement apathiques pour la période, même pendant une heure, les Bleus perdant tous leurs duels, étant zéro dans l'implication, dans même l'animation offensive. Il n'a pas été du tout capable de les remonter et de les rebooster à la mi-temps. Donc il y a plein de choses qu'il a mal faites. Donc c'est les joueurs qui ont gagné, c'est certainement pas Henry à lui tout seul.
Ok, il nous reste un petit peu de secondes, mais je crois que ça a été clair. Non, c'est trop tard maintenant. Mais il nous reste... Oui, mais le chrono, ouais, pendant que j'ai dit ça, voilà, c'est fini. C'est fini. C'est fini pour vous, s'il vous plaît. Oui ou non, vous allez voter sur le site L'Équipe pour ce super duel. Alors pour vous, victoire signée Henry, vous avez écouté les arguments des uns et des autres, vous penchez pour qui ?
Après, c'est difficile de répondre à ça parce qu'il y a eu une réaction quand même de sa part. Donc, est-ce qu'on va dire qu'il s'est trompé, donc c'est de sa faute et en fait, c'est les joueurs qui ont rectifié le tir. Moi, je trouve qu'après, un coach a le droit de prendre un choix au départ et de faire son équipe en pensant que ça va être le meilleur choix. Et après, derrière, de voir que suivant l'évolution du match ou l'adversité qui est en face, de pouvoir évoluer et d'essayer d'amener quelque chose qui peut faire en fait basculer l'histoire. Donc de ce côté-là, je trouve qu'il y a une vraie implication du coach. Parce que si tu mets tes joueurs en place dès le départ, puis ça gagne. Alors oui, il y a une influence de lui parce qu'il les a fait travailler d'une certaine manière. Mais là, je trouve qu'il y a une vraie influence par rapport à l'évolution et par rapport au fait d'avoir fait rentrer des joueurs. Parce qu'après, tu vois, Fred dit c'est l'implication des joueurs au départ. Donc c'est pas forcément que le coach. C'est aussi des joueurs qui peut-être n'étaient pas impliqués de la bonne des manières sur le début de match. Mais je trouve que d'avoir une réaction et que finalement ça tu retournes la situation, je trouve que tu peux lui dire quand même qu'il fait partie de la victoire.
Ok, donc après, c'est plutôt oui. Vous allez
pas
plutôt
signer Henry, c'est plutôt, quoi, c'est ça le débat.
Ouais, mais c'est plutôt. Moi, je dirais plutôt signer Henry, même si j'aime pas trop dire c'est ou le coach ou les joueurs.
Oui, c'est plutôt lui, parce qu'il y a une réaction
et que finalement.
Ok, donc c'est plutôt Pia et Tim. Vous avez rappelé l'interview de Giovanni Castaldi, les confessions de Thierry Henry qui a regretté ou qui était agacé sur deux choses. Je vais rappeler finalement le fait qu'il n'ait pas réagi pour corriger son système. Mais il y a une deuxième chose. Sauras-tu la trouver ? On va réécouter Thierry Henry.
Les duels. Hein ?
Je pense que j'ai trop tardé pour repasser un 4-3-1-2. Vous avez tout de suite la différence. Il n'y a pas photo entre ce qu'on a fait, qu'on est passé en 4-3-1-2 et avant. Récupérer les ballons haut. Il y a quelque chose qui s'appelle aussi dans le football, gagner ses duels. Agacé contre moi-même en fait, puisque on a essayé quelque chose et je l'ai pas remis en place assez tôt, en essayant de faire confiance à ce qu'on avait fait, travailler. Deux jours, c'est pas assez pour changer ça. C'est pour ça qu'on est vite repassé en 4-3-1-2 après le deuxième but. C'est pour ça que le deuxième but, monsieur Ivoirien, vous m'avez vu parler avec mon staff. On se demandait est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas. Et si tu fais rentrer Ryan, il faut qu'il soit dans le jeu. Donc on s'est dit, repassons à ce qu'on sait faire et ce qu'on a fait depuis le début. Et on a eu des récupérations à maintes reprises. Mais surtout, on a commencé à défendre en avançant. Football moderne, tu peux pas défendre en reculant.
Donc évidemment Thierry Henry parle de lui, il parle de son coaching, il parle de son agacement, mais à un moment il dit tiens, Si tu gagnes pas les duels en foot, bah, tu peux pas grand chose. Système ou pas système, réactivité ou pas. Et donc là, il y a les joueurs aussi.
Et surtout qu'après, dans la suite de l'extrait, il enchaîne en félicitant Kylian Sildia. Et donc en fait, il critique le fait que Diakité a justement défendu en reculant. Mmh. Il cite pas son nom, mais c'est hyper clair dans la façon dont il amène le truc, qu'il est pas content. Voilà. Et globalement, je trouve que vous êtes un peu dur sur ce qu'il propose en début de match.
C'est un argument pour l'autre question là, mais c'est un argument qui pourrait être utilisé par Fred et par.
Parce que je trouve que vous êtes un peu dur sur le côté le schéma tactique en début de match, parce que on sait tous très bien qu'il a comme obligation là de mettre les 2001. Donc en fait, il est obligé de complètement changer son équipe, de faire un truc complètement différent d'habitude. Il le fait pendant une mi-temps et quelques minutes. Et après, bah, il a un vrai impact sur le truc. Il enlève tous les joueurs avec qui ça va pas. Il remet les joueurs. Voilà. Le coup, il enlève pas beaucoup de 2001.
Quelques minutes, c'est 68e l'entrée de Kylian Sildia.
Oui, bah, c'est logique.
C'est pas logique. Ça aurait pu être beaucoup plus tôt.
Il enlève Diakité.
Diakité qui prend un tel bouillon.
Diakité qui est le seul 2001 qu'il enlève d'ailleurs.
Tout que Sildia fait vraiment une entrée géniale.
Je pense sincèrement que sur quand il parle de duel, pour moi, c'est une façon pudique de parler d'attitude. Parce que personnellement, en regardant le match, j'ai été très agacé du début de rencontre. Je trouve qu'il y a des attitudes dilettantes, pour ne pas dire un peu arrogantes, de la part de certains joueurs qui ne jouent pas comme ils jouent en club. Loukeba, par exemple, qui en défense tente des choses, tente des crochets, plutôt que d'aller à l'efficace, essaye de faire le beau geste. Et on a vu ça pendant un long moment. Ça s'est un peu amélioré sur la fin. Et je trouve que c'est un peu récurrent chez cette équipe de France Espoir. Il va falloir régler ça rapidement dans les attitudes, dans les têtes. Peut-être reposer un petit peu tout le monde, parce que le premier jour de la compétition, les USA, eux, ils viendront avec le mort aux dents et sûrement une autre attitude.
Envoyé spécial du côté de Châteauroux, Giovanni Castaldi, que j'ai eu juste avant le début de ce direct. Il voulait absolument mettre un joueur à l'honneur, c'est Ryan Cherki. On a réécouté la conférence de presse de Thierry Henry. Et Thierry Henry a dit ceci à propos de Ryan Cherki.
Mais Ryan, je l'ai dit la dernière fois, quand Ryan il joue comme ça, c'est juste impossible de jouer contre lui. Mais il faut jouer comme ça tout le temps. Son entrée contre Toulouse, son entrée ce soir, peu importe où il était, il a pris la balle et il a joué vers l'avant. Il a rassuré tout le monde. Donc voilà.
Voilà. Vous n'êtes pas d'accord avec Thierry Henry?
Je ne sais pas, on ne parle pas de Désiré Doué par exemple? Enfin, on va parler de Cherki dès qu'il donnera 3 miettes. Aussi. Non, mais on va pas parler de Désiré Doué, on va pas parler d'Odobert, il y a une passe D, un but. On va pas parler de ces mecs-là. Mais on a l'impression que dès que Cherki fait une touche, tout. Ah, bah oui, c'est Cherki.
Greg, il y a une espèce de fascination qui vire au vertige sur Ryan Cherki depuis le début de la saison, que ce soit avec Lyon ou avec l'équipe de France. J'ai quand même vu des matchs où il n'était pas titulaire avec Lyon, où la question tout au long du match pour le commentateur était de savoir à quel moment il allait rentrer.
Alors, mais c'est respectueux pour les mecs, c'est respectueux pour ceux qui
l'ont demandé. La vérité, c'est qu'il fait une bonne rentrée là et qu'il fait une bonne rentrée le week-end dernier.
Ah bah quand même,
fait deux matchs d'affilée.
J'ai vu le match,
c'est bien, parce qu'on l'a pas vu souvent.
Doué, par exemple, vous l'avez trouvé comment?
On a vu le match, mais il fait une bonne rentrée.
Oui, il fait une bonne entrée.
Oui, mais c'est juste une entrée. C'est une entrée. C'est quand même paradoxal.
Je sais pas, moi, je vois pas Messi quand je le vois.
Non, mais ça.
Vous trouvez plus? Je pense que tu verras plus jamais Messi dans votre jour.
Vous ne trouvez pas que l'entrée de Cherki, alors, coïncide avec la réalisation tactique, vous a expliqué Thierry, mais l'équipe joue un peu plus vers l'avant, parce que le problème,
c'est ce qu'ils font quand il a dit, il en a parlé Henri, et il a parlé du mec à droite, là, du mec de Fribourg.
Sylvie,
c'est le premier mec qu'il a cité, parce qu'il a mis de l'impact, il a défendu en avançant. Donc j'ai l'impression qu'à chaque fois, on sort Cherki comme Timothée, on le sort du. Si ça appartient pas un peu à Doué ce soir, y compris à son contrôle de balle sur le troisième. J'y comprends plus rien. Alors, donc pourquoi lui toujours? Alors Doué, un jour il va falloir qu'il en mette 6.
Bah oui, mais c'est fascinant parce que c'est un garçon qui est annoncé depuis des années, on le sait bien. C'est un garçon qui est quasiment jamais titulaire aux yeux de Peter Bosz, de Laurent Blanc, de Fabio Grosso, de Pierre Sage et même de Thierry Henry puisqu'il ne le fait pas démarrer.
Ça fait 5. Ouais.
Donc à un moment donné, peut-être se poser les bonnes questions, se dire que Cherki est peut-être très bon sur un quart d'heure, sur 20 minutes, mais sur des séries de matchs de 90 minutes, c'est rarissime.
Incapable. Non mais rarissime. Actuellement,
bah, après, c'est, je vois même, c'est un joueur pas qui a des qualités exceptionnelles. Oui. Donc en fait, l'idée, c'est de le faire progresser dans, ce, dans l'attitude.
Mmh. Ben oui, parce mais que ça fait 4 ans qu'on essaie de faire progresser.
Peut-être.
4 ans. Oui, peut-être. Ah, ouais. 2019, lancé en 2019.
Ouais, mais si, sur des bouts de match. Ouais.
Si il est fort sur des bouts de match, il peut faire des failles. Ah,
après,
voilà.
Après, le truc, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de parler de lui parce que c'est un joueur frisson. Et ça, on ne lui enlèvera jamais, en fait. C'est vrai que quand il est bien et qu'il touche le ballon, il se passe un truc.
Voilà. Il est exceptionnel.
Et du coup, il est très énervant
football,
aussi.
C'est être exceptionnel. Si on veut être un grand joueur de football, on est exceptionnel de temps en temps et on est bon le reste du temps.
Oui, je sais.
Le problème, c'est cette incapacité.
Mais c'est pour ça qu'il y a une espèce de fascination aussi, parce que
quelque part, c'est peut-être parce qu'on en parle tant que la tête gonfle et dégonfle.
C'est nous donner vraiment trop de pouvoir.
Est-ce que Désiré Doué, c'est pas un joueur frisson, par exemple?
C'est pas pareil.
Non, c'est un joueur physique.
Le contrôle qu'il fait sur le troisième but, c'est pas un joueur frisson.
Non, c'est un joueur physique.
Il est pas au cœur du jeu.
C'est un joueur physique, c'est un joueur qui a de l'abattage.
C'est un plâtrier.
Désiré Doué, il est incroyable aussi.
Ah non, c'est un joueur qui a du volume, qui est physique et tout ça.
C'est un joueur fin, c'est un joueur qui va vite.
Il est hyper technique. T'as vu comment il contrôle sa balle sur le but?
Oui, il a réussi un contrôle, oui, en effet.
Ça t'a parlé, ça.
Ah oui.
Le pigeon extérieur du droit, comme ça.
Non, mais c'est un joueur qui a un talent fou aussi.
Ah ouais.
Mais dans un autre registre.
C'est pas pareil.
C'est pas frisson.
C'est pas un créateur, c'est pas quelqu'un qui va faire briller les autres avec des passes lumineuses.
Oui, c'est pas un créateur.
Sur le contrôle,
c'est un contrôle de génie.
C'est ce que je te dis, c'est pas un joueur qui fait briller les autres. Il va pas faire une passe lumineuse qui va créer un.
Mais c'est un bon joueur.
Il est
pas
un joueur frisson.
C'est pas un des problèmes. Briller les autres non plus.
Regarde le but d'Ozober.
C'est pas une très bonne passe, mais après, c'est quand même un joueur qui est individuellement, qui fait frisson par ses dribbles, par ses.
Mais au final, il fait toujours des super belles passes aux autres quand même.
Mes amis, j'ai un cas d'école à vous proposer. En ce moment, Ryan Cherki vient d'enchaîner deux matchs. C'est vrai, il sort du banc. Donc, il est bon quand il sort du banc car il est vexé. Voilà, il est vexé, on prive de ballon. Le management de Cherki, c'est quoi pour avoir un bon Cherki? Donc, qu'il soit remplaçant, c'est à moyen terme, c'est injouable ça, non? Non, pour que le gars devienne plus régulier, constant, machin.
S'il ne change pas d'attitude, ça sera un énorme flop. Quoi.
Pierre Sage l'a bien dit sur le dernier match. Quand il le fait rentrer en disant « t'es en colère », reste en colère, c'est très bien.
Oui, mais comment on fait
Voilà, c'est tout le temps d'essayer de recharger la batterie.
Donc, donc ça ne changera pas.
Je ne sais pas.
Vous savez pas.
Ça fait longtemps.
Il y a des joueurs qui prennent de la maturité sur le tard aussi, qui peut-être se remettent plus en question à partir d'un certain âge. C'est pour ça qu'ils arrivent à éclore et à être réguliers plus tard. C'est peut-être son cas à lui.
Ouais.
On le souhaite. Ça on le souhaite pour l'Olympique Lyonnais. On le souhaite pour le football français. Mais en tout cas, à date, c'est un joueur qui a toujours eu du mal à enchaîner plus de 2 ou 3 bons matchs d'affilée. Et la preuve en est, les coachs qu'il a eus avec Lyon, qui ont pourtant eu la charge de le faire sortir, ont toujours fini par le reléguer au banc.
Le résultat de ce duel, là, on a parlé de Cherki, mais on a parlé de l'impact d'Henry. Est-ce une victoire signée Henry, oui ou non? Ballon, 59%, Verdier, Schneider. Voilà, dans un fauteuil. L'Algérie ce soir dispute un match amical contre la Bolivie. Succès de. Ah oui, d'accord, on est très bien. On est à l'émission. Romain Aran, allons-y, avec la musique, mais les images.
Enfin, bien sûr, et les images. Oui, succès des Fenech, en tout cas pour la première de Vladimir Petkovic, le nouveau sélectionneur des Fenech qui a remplacé Djamel Belmadi. Bon. Les Algériens ont quand même eu chaud, même s'ils ont ouvert le score. Vous avez vu le bon travail de Yacine Brahimi sur le côté gauche. Et c'est Amine Gouiri qui conclut pour mettre les Algériens devant. Égalisation des Boliviens à la 47e minute. C'est signé Algan Araz. 70e minute, ça fait même 2-1 pour la Bolivie. Là, ça a commencé à être chaud. Mais heureusement, les Algériens ont tout renversé dans les dernières minutes. 79e minute, c'est Yacine Benzia qui va égaliser à 2 partout. Et le but du 3-2 qui intervient à la 94e minute d'Aïssa Mandi, les anciens de Ligue 1 qui ont été à l'honneur. Bon, en tout cas, même si ce n'est qu'un amical pour la première de Petkovic, l'Algérie a gagné. Ça va faire du bien après le fiasco de la CAN.
Information l'équipe, 17 présidents de clubs de Ligue 1 demandent la tête d'Anthony Gauthier. Ah, on me dit un top but. Ben, un top but, il n'était pas marqué. Moi, je lis mes notes. Hein. Top but ce soir. Donc, après Anthony Gauthier, vous allez voir, il va lui arriver les trucs. Mais top but ce soir.
Absolument. On a un top but à vous montrer avant de parler d'affaires un petit peu moins rigolotes, on va dire. On a eu 3 très jolis buts ce soir. On voulait vous montrer ça, évidemment, entre les amicaux ou, enfin, surtout des matchs amicaux d'ailleurs. On va commencer. Regardez si les images arrivent. Voilà, on y est. C'est le deuxième but de la République tchèque face à la Norvège. C'est signé Antonín Barak, le joueur de la Fiorentina. Joli coup franc du gauche dans la lucarne.
Barak.
Il a cassé la baraque. Allez, je m'en suis débarrassé de celle-là. Ensuite, Luis Diaz, le festival sur le côté gauche avec la Colombie et le centre au second poteau. Et une reprise un petit peu acrobatique, un petit peu originale.
C'est joli.
C'est signé Daniel Munoz, le joueur des Cafeteros de la Colombie.
Ah oui, pas mal, hein.
Paf, demi-volée.
Bon, on va pas se montrer, regardez. Numéro 1.
Ouais.
Ouf. Celui-là, c'est le but de la soirée. Je pense que c'est quasiment sans contestation possible. Regardez ce ciseau absolument superbe. Il est signé Vitali Damascan, le joueur de la Moldavie.
Le tibia, vous le comptez comme un beau but, vous?
Ah bah franchement, il est quand même beau là, Mémé. Vous faites ça, vous, sur les terrains, Mémé?
Je ne joue pas, par respect pour le football. Merci. Information donc, l'équipe. 17 présidents de clubs de Ligue 1 demandent la démission de qui? D'Anthony Gauthier, le patron de l'arbitrage français. Explication, Romain.
Et la crise de l'arbitrage français qui se poursuit. 17 présidents de Ligue 1 ont donc réclamé dans une lettre ouverte la démission d'Anthony Gauthier, qui est donc le patron de l'arbitrage français, le directeur de l'arbitrage à la Fédération française de football, très exactement. En cause, je cite selon la lettre ouverte, un dialogue et une confiance rompus. On rappelle que Stéphane Lannoy, le responsable des arbitres professionnels, qui était juste en dessous de Gauthier dans la hiérarchie, a été licencié il y a moins de 2 semaines.
Anthony Gauthier est soutenu par la FFF qui contrôle l'arbitrage. Donc, est-ce un putsch de la Ligue contre la Fédération? Au niveau de l'arbitrage, on est à peu près là-dedans.
Oui, assurément. Hein, ouais.
Prendre le contrôle de l'arbitrage par la Ligue.
Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il... Mais alors, parce que l'argument, il est simple, c'est on paye. Oui. Sauf que les règlements de la FIFA, vous pouvez les regarder, c'est la fédération qui contrôle l'arbitrage et pas la... Parce que si c'est privé, c'est quand même un petit peu la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme disait l'autre. Donc il faut quand même sécuriser et sanctuariser l'arbitrage.
C'est oui, mais la Ligue veut récupérer l'arbitrage, mais en disant qu'ils vont être indépendants. Faut-il les croire?
Oui, non.
D'accord, merci beaucoup. Le propriétaire du SCO d'Angers sans transition, Saïd Chaban, condamné par la justice pour des agressions sexuelles.
Une condamnation à 2 ans de prison, 1 an ferme et 1 an avec sursis. Il était jugé pour agression sexuelle aggravée. 7 femmes avaient porté plainte contre lui, évoquant notamment lors des procès des attouchements et des baisers forcés. Saïd Chaban n'était pas présent aujourd'hui à l'annonce du délibéré selon Ouest France, mais en tout cas, ses avocats ont déjà annoncé leur intention d'interjeter appel.
Sans transition, on passe à l'Euroleague. Monaco qui vise toujours le top 4 en Euroleague. Les Monégasques ont signé une belle opération ce soir face à Valence.
Ça a été chaud, ça a été très chaud pour la Roca Team ce soir en Euroleague face à Valence. Les Monégasques sont dans le dur physiquement en ce moment puisqu'ils ont déjà atteint la barre des 60 matchs cette saison. Mike James, qui était peu en verve face à Milan, a été décisif en toute fin de rencontre pour offrir la victoire à son équipe, dont Taol aussi. Et donc une victoire à l'arrivée 78-77. Mais très bonne opération pour Monaco qui réintègre le top 4.
Le Masters 1000 de Miami, y a-t-il des résultats où on peut passer à autre chose?
Il y a des résultats, à montrer
image
ce soir, absolument.
Image,
il y avait des Français sur le cours, Hugo Humbert vient de se qualifier, Van Aché et Dodin sont en course aussi. Mais surtout, on a voulu retenir la victoire d'Arina Sabalenka, la deuxième joueuse mondiale, qui est endeuillée parce qu'il y a son ex-petit ami qui est décédé en début de semaine. Jusqu'au dernier moment, on n'a pas su si elle allait tenir sa place. La joueuse avait dit qu'elle voulait jouer ce tournoi de Miami. Elle était opposée à Paola Badosa et elle s'est imposée 6-4, 6-3. Elle a réalisé un match très très solide. En plus du deuil, il faut savoir qu'il y avait quand même plusieurs heures de retard sur le match à cause des conditions et tout. Bref, c'était très difficile et elle a réalisé un grand match, Arina Sabalenka.
Championnat de France de tennis de table à Montpellier, les frères Lebrun ont débuté. Je vais ajouter leur show.
Exactement, leur show. C'est clairement de ça dont on parle là, puisqu'ils sont très attendus forcément, les frères Lebrun, Félix et Alexis, ils sont favoris. Et ils ont commencé donc à faire le spectacle, et notamment Alexis, l'aîné, il nous a refait sa spéciale avec le changement de main en cours de point. Regardez bien, il est en haut de l'écran.
Bien remis. Pas mal comme point non plus, hein. Incroyable. Main gauche.
Oh là là, quel point !
Un mur.
Ouais.
je suis crevé. Hein.
Ah ouais, ah ouais. Ah, c'est pas vous au tennis de table, mon Grégoune, hein. On aurait pu ressortir une archive, d'ailleurs.
Hein. Regardez, on est épuisé, franchement.
Ah ouais, ouais. Là, je sais pas, on le dit bien. Et très mauvaise nouvelle pour Kevin Meyer, contre l'abandon sur son hécatlon de qualification olympique. Donc, on reste toujours dans l'expectative.
Les choses se compliquent pour le décathlonien français, qui est probablement l'une des plus grosses chances de médaille pour l'athlète français aux Jeux Olympiques de Paris. Il a abandonné en cours de décathlon en raison d'une gêne à la cuisse droite. Ça l'a empêché de réaliser ses sauts en hauteur, comme vous le voyez sur ces images. Et en fait, cette compétition à San Diego devait lui permettre de réaliser les minima pour se qualifier au JO. Il ne les a donc toujours pas. Il a jusqu'au 30 juin pour les réaliser.
C'est pas moi, ça. C'était moi, en saut.
C'est pas bien de se moquer, Mémé.
Ah ben non, mais ça va.
On va faire zéro pointé sur l'athlète, ce sera de votre faute.
Non, c'est mal qu'il ait eu la sagesse d'abandonner.
Ah bah oui.
Il avait justement une petite gêne physique. Il y a d'autres fenêtres de tir sur le plan du fait de se qualifier pour les JO. Et le saut en hauteur et la perche derrière, c'est deux disciplines pour lui qui sont vraiment traumatisantes. Il pouvait se blesser et là, c'était adios les JO. Donc il a bien fait de mettre la flèche et de ne pas tenter le diable.
Enfin, s'il ne fit pas les minima, il sera bien en pleine forme, mais il ne fera pas les JO. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, docteur Verdier. Du cyclisme pour finir, avec le Grand Prix de l'E3 et la cinquième étape du Tour de Catalogne. Vous avez tout mélangé. Allons-y, ce mash-up va être splendide.
Eh oui, on a tout mélangé, mais en tout cas, la quinzaine sainte est lancée. La quinzaine sainte, ce sont les 15 jours de classique en Belgique, notamment avec le Tour des Flandres en point d'orgue, et ça va jusqu'à Paris-Roubaix. Et donc, Mathieu Van Der Poel a parfaitement lancé cette période cruciale de sa saison. Victoire sur le GP E3 cet après-midi. Il a attaqué dans le Paterberg, l'un des gros monts, on va dire, dans les Flandres. Wout van Aert, lui, est tombé. Il a essayé de revenir sur Van Der Poel, mais c'était déjà évidemment trop tard. Le Néerlandais qui s'est imposé facilement en solitaire. Et une autre course aujourd'hui, c'est le Tour de Catalogne avec une victoire française sur la cinquième étape. Succès d'Axel Laurence au sprint, son premier au niveau World Tour. Il devance Marin Vandenberg et un autre tricolore, Brian Cocard. Tadej Pogacar est toujours leader du général. Demain, il retrouve son terrain préféré, la montagne, et ça risque d'être compliqué pour les autres.
Merci Romain. Mbappé best-of, le capitaine de l'équipe de France, était aujourd'hui en conférence de presse. Si vous l'avez manqué, bon, elle était à 17h30. Hein. Voici les moments clés. Pas de grandes annonces, mais c'est toujours Mbappé en conférence de presse. Un excellent moment de télé. On y va.
J'ai toujours dit que les JO à Paris, c'était spécial. Ça allait être un événement spécial et que je voulais y être. Et j'ai toujours dit aussi que c'était un événement qui dépendait pas de moi. Maintenant, est-ce que vous voulez savoir si mon ambition, elle a changé? Non. Est-ce que la décision finale, elle appartient toujours à la même personne? Oui. Maintenant, je peux pas me prononcer parce que aujourd'hui, on m'a pas dit oui, on m'a pas dit non, on m'a rien dit.
On vous entend au Real Madrid, Paris Saint-Germain, les JO, Kylian Mbappé, Emmanuel Macron. On va voir Florentino Pérez. Restez focus sur le terrain. C'est compliqué ou non? Au contraire, pour vous, ça glisse. En toute sincérité et franchise.
Ouais. Et moi, j'ai une question. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé?
Non, mais
alors, ce qui se passe en dehors, on s'en fout.
Je reviens sur votre avenir. On a quand même annoncé que vous aviez expliqué à vos dirigeants et à votre vestiaire que vous alliez quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Est-ce que ça, au moins, vous pouvez le confirmer?
Vous savez mieux que moi, non?
Si vous l'avez, oui, mais vous n'en avez pas parlé encore.
Donc demandez à celui qui vous l'a annoncé. Il sait, lui, non?
A priori, oui.
Oui, tu sais qu'il sait.
Oui.
Voilà, demande-lui.
Mais vous, est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est vrai?
Demande-lui.
Bien fait. Il a dit oui.
Il a dit oui?
Oui.
Bah, il a toujours raison, lui.
Ah, je sais pas.
Si, moi je sais qu'il a toujours raison.
A priori, il était là, donc...
Oui, tu sais où il était. Mais... Et comme j'ai dit, le jour où j'aurai quelque chose à annoncer, je viendrai et je pense que je ne me suis jamais caché, j'ai jamais eu peur. Donc, si j'ai quelque chose à dire, je viendrai et je le dirai. L'objectif, on est dans un sprint final, on est engagé dans toutes les compétitions. Je pense que l'idée de faire un triplé est beaucoup plus importante que la question de savoir si oui ou non je vais rester. Je pense qu'on a l'occasion de faire une année spéciale, de faire quelque chose de spécial et tout le monde au club est conditionné par ça.
Voilà. Timothée, vous retenez, vous, sa punchline, vous me voyez perturbé, là, il inverse la question,
Je pense que c'est médiatiquement, c'est un forcément la punchline qui interpelle. Je trouve ça intéressant d'une certaine manière, vu ce qu'on a pu dire, analyser de ses titularisations, remplacements avec le Paris Saint-Germain. Il a rappelé sur le terrain qu'il était en pleine forme, il rappelle là qu'il est en forme, il remet un peu les choses à leur place. Mais après, l'ensemble de son interview est intéressante, et c'est souvent le cas avec Mbappé, parce que j'aime bien la suite aussi, mais je laisse ma place.
Bon, vous, je laissez votre place. Bah, Pia, vous êtes fan du Paris Saint-Germain.
Ouais.
Et Pia, vous, ce qui vous intéressait, c'est l'objectif triplé. Là, pour vous, fan du PSG, là, vous êtes aux anges.
Moi, je suis en mode paupière d'oreille dès que je vois Kylian qui parle d'autre chose que de foot. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué parce qu'on sent que peut-être lui, il aimerait parler plus de foot. Mais ce n'est pas les questions qu'on lui pose. Donc, je le vois là en conférence de presse, je ne le trouve pas du tout naturel. Il a son ton chelou un peu, j'appelle ça son ton chelou.
Comment, c'est quand quoi le ton chelou?
Bah, je ne vais pas l'imiter, mais il parle. On a déjà vu des joueurs de l'équipe de France le chambrer un peu en disant, mais en fait, quand il parle en conférence de presse, ce n'est pas du tout comme ça qu'il parle dans la vraie vie. Là, il avait ce ton, qui n'est pas son ton naturel, je pense en tout cas. Il y a un côté, il rentre dans le jeu parce qu'il ne veut pas non plus avoir l'air stressé. Il est aussi à l'aise avec l'exercice, etc. Mais honnêtement, moi, ça me... J'en ai tellement marre, quoi. La seule phrase que je retiens, c'est j'ai envie de mettre un triplé, je me concentre sur le terrain, bah nickel, moi aussi. Je suis pas la seule, je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui ont envie de ça, et voilà.
Greg, qui était devant les journalistes aujourd'hui, capitaine de l'équipe de France ou le joueur du PSG?
Ça dépend des questions qu'on lui pose. Il répond aux questions qu'on lui pose. Si c'est des questions sur lui, mais vous imaginez bien qu'un match amical contre l'Allemagne, compte tenu de l'actualité qui charrie, ça va être... Ça va être pour ça, je la trouve sévère. Il était un... Parce qu'en fait, il peut pas dire les choses nettement. Il ne peut pas dire ce qui s'est passé cet été, il ne peut pas dire son sentiment. Vous pensez, mais il ne peut pas le dire. Donc il est effectivement obligé d'avoir une espèce de petit double discours, mais c'est parce qu'il ne peut pas dire cash. Voilà, avec Nasser, ça s'est passé comme ça, je ne lui ai pas parlé pendant 5 mois, ensuite il y a eu ça, ensuite j'ai eu peur de ça, ensuite j'ai cru que ça allait se passer comme ça. Il ne peut pas le dire. Donc effectivement, il est dans un espèce de...
Parce que si tu peux le dire, vas-y.
Je
sens que tu es à deux doigts.
Bon, voilà, moi si on me donne le feu vert pour y aller, j'y vais, tant que j'ai pas le feu.
Qui va te donner le feu vert?
Il faut que je sois... Bon, bref, je peux pas, c'est pas si simple. Il a dit quelque chose
d'assez... Qu'est-ce que tu sous-entends?
Il a dit quelque chose d'assez clair dans le cet après-midi. Vous n'avez pas sorti ça comme extrait, mais il a... En fait, il savait que cette saison, ce serait très compliqué. Qu'il pourrait jouer, moins jouer, ne pas jouer. Il a paramétré ça dès le départ. Donc il a dit, quoi qu'il arrive, je suis prêt. On me met au frigo, je suis prêt. On me fait jouer un peu, je suis prêt. On me fait jouer totalement, je suis prêt. Et je sortirai pas de là, en fait. C'est-à-dire qu'il aura le profil bas par rapport à ça. Je trouvais qu'il était quand même un peu profil bas aujourd'hui sur pas mal de petits points. Oui, c'est le comme si le PSG avait son mot à dire.
Greg, il a dit chute. Voilà. Greg, moi, ce qui m'est revenu, c'est que là, à la fin de la saison, il a coché les objectifs. Il y a notamment, pour nos amis marseillais, le Classico, ça c'est coché, la Coupe de France. Demi-finale et finale, et la Ligue des Champions.
C'est pas ce qu'il a dit. Ce qu'il pense, lui, c'est qu'il, en tout cas, ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est qu'il prendra ce qu'on lui donnera.
Je veux pas me mettre à sa place et dans sa tête, mais je pense que si tu lui fais pas jouer le Classico, il pète un câble. Son dernier Classico au Paris Saint-Germain,
ça n'est pas.
Qu'il le vivrait très mal.
On pense pas. C'est pas ce qu'il a dit aujourd'hui. Aujourd'hui, il a dit je prendrai ce qu'on me donne.
Et ce qu'il ressent, c'est deux choses différentes.
Ah, c'est un démon, Greg. On finira par une citation de Jérôme Roten ce soir sur RMC. Tant qu'il y a une possibilité de voir Real PSG, Real Paris, Real Madrid en Ligue des Champions, Kylian Mbappé n'annoncera rien. Je trouve que c'est plutôt de bon sens. Allez, à tout de suite, mes amis. Est-ce qu'on se connecte avec l'arbitre de l'équipe du soir?
Cette réflexion.
Bah oui, c'est plutôt de l'équipe.
On l'a pas dit 100 fois ici, en fait.
Oui, ça qui est bien. Oui, écoutez, d'accord. Okay. Faites pas votre jalouse, Jérôme dit quelque chose, je le cite et puis voilà, c'est pas besoin de lui tomber dessus. Il arrive, c'est notre arbitre Hugo Andrani pour les meilleurs moments ou les pires moments de la semaine. Tiens, vous êtes en tôle, privé de pub, à tout de suite. C'est la dernière ligne droite de l'émission de la semaine. Et la semaine, le vendredi, on refait l'équipe du soir avec un arbitre professionnel. Le jingle, s'il vous plaît. Vous nous envoyez évidemment le générique. On peut faire ressortir, s'il vous plaît, le Grégory Schneider de Tôle, s'il vous plaît, parce que là, on a encore les barreaux. Voilà, merci beaucoup. Et tout de suite, on revoit la semaine vue par un arbitre professionnel. Monsieur Andrani, venez tout de suite, mais juste après le jingle. Enfin, quelque chose comme ça. On y va. Expert de l'équipe du soir. Bonsoir, monsieur André.
J'attendais le jingle, mémé.
Bah oui.
Vous allez bien?
Bah oui, oui.
Bon, ça va très bien. Écoutez, moi, j'ai quelque chose déjà qui m'a rendu très heureux. C'était un super point de ping-pong que vous avez montré tout à l'heure.
Ouais.
Du coup, je vous propose qu'on le revoie si ça vous embête pas.
Ah oui.
On peut déjà le regarder.
Oui.
Main gauche.
Oh là! Ah bah oui, là c'est...
Oui, mais vous le savez, mémé, dans cette émission, vos désirs sont des ordres.
Ah oui.
On a retrouvé une petite archive. Bon, on vous laisse regarder ça, c'est pépite.
Ah. C'est jouable.
Alors, ah oui, ça c'est du ping-pong. Oui, il y a un genou qui est parti en vacances là.
Je sais pas ce que c'est.
Mais c'est vraiment très mal.
Mais le comique de la chute, c'est qu'elle annonçait pas rien. Il y a une sorte d'effondrement comme ça.
Hein? Bravo, Greg.
Et là, c'était Mathieu Maes avec des cheveux.
Bien sûr.
Mais avec des cheveux.
Exactement, vachement les nez, quoi.
Et après, quoi, il va perdre ses cheveux. Mathieu, qu'on l'embrasse. Bon, la semaine,
voilà,
comment on se
cadeau. Bah, alors, on y va. Je siffle le coup d'envoi de la VAR de cette semaine. On y va?
On y va.
Et c'est bien dans l'équipe du soir parce qu'on est toujours prêts, nous, c'est un truc, c'est notre truc quoi.
Ils attendent avant de gueuler, hein. Avant de gueuler au sens négatif.
Ah oui. Hey, bah coucou mémé. Ouais, pour cette nouvelle semaine, il était important de mettre en avant nos présidents qui eux sont toujours au maximum durant chaque match, n'est-ce pas Didier?
Le président ce soir n'est pas tellement à déranger, c'est le président Ravi qui reçoit son courrier. Bonsoir président.
Oui, je reçois mon courrier, oui, mon voilà. Truc. Bon, donc pendant l'émission, je vais ouvrir mon courrier, machin.
Il y a un président qui est aussi bon en ouverture de courrier qu'en chant.
Je ne sais plus. On se retrouve les mains nues. Mais
c'est
après,
caméra café.
La guerre a fait la paix.
Les quatre jurys pour Didier Roustan. Et en parlant de The Voice, Fred Verdier a eu la chance de prendre lui aussi la place de président.
Ah.
Et il a su mettre la bonne ambiance sur le plateau. Bravo Fred.
Le Belge est donc contraint, oui, de faire une croix sur le reste de sa saison et sur le prochain Euro en Allemagne avec les Diables Rouges.
Oh, il n'aura même pas fait une somme e-saison.
Ouais. Oh ouais.
Un président aussi bon en humour qu'en information.
Des équipes qui peuvent doubler et enchaîner sur les Jeux Olympiques avec les trois mêmes joueurs qui auront fait l'Euro avant.
Ça concerne.
T'as la France, t'as l'Espagne, je crois qu'il y a l'Allemagne.
Quoi, au JO?
Oui.
Ils sont pas au JO. L'Allemagne n'est pas au JO.
L'Allemagne n'est pas au JO.
Bon, c'est Israël, Ukraine. Les équipes européennes.
Tu vois.
Ah bah oui, c'est exactement ce que je te disais. Bon, en plus d'être bien informé, Fred, c'est avant tout un président qui sait faire court et ça, Étienne, il adore. Hein.
Je faisais ma arbitrage.
Bah, c'est une perspective en tout cas que je trouve moi.
Allez, on y va. Ouais, c'est maintenant parce que là, c'est un peu long. Allez, Ouh là là, mon Fred. Il a des choses à dire en même temps, c'est normal. Bon, allez, on y va. On coupe. Non, toujours pas. Bon, allez,
je
maintenant.
Je pas bien compris à qui tu donnais le
point. Ouais.
Ah bah.
Aux deux.
C'est-à-dire, comme il fait thèse, antithèse, synthèse, et je recommence, forcément, des fois, t'as du mal
à. Étienne Mathis, vous avez accouché sur les arbitrages à venir, le président. J'ai l'impression.
Qu'est-ce que c'est que cette agressivité?
Oui, en même temps, le métier de président, Fred, c'est avant tout laisser parler les autres. Bah, demandez à monsieur Micou, il s'y connaît.
Alors, je te pose la question.
Est-ce
que je peux te poser la question?
Les deux fois, il les a sortis. Il l'a sorti, pardon.
Est-ce que je peux te poser la question?
En fait, il s'en va. C'est ça ou pas?
Mais j'entends. Mais est-ce que je peux te poser la question?
Fred, n'hésitez pas à demander des conseils à Jo, si jamais pour le métier de président. Et puis bon, sans transition, on va enchaîner tout de suite avec ces séquences qui ont dépassé les bornes du règlement. C'est les hors-jeux de la semaine. Et tout d'abord, un hors-jeu que personne ne voulait entendre.
En forme olympique, d'ailleurs, je milite pour que la moto entre au jeu, mais pour l'instant, j'ai pas beaucoup de.
Tout et n'importe quoi entre.
Oula, oui, d'accord. Bah, merci Karine. Madame Galli est également complètement hors-jeu quand on parle musique, contrairement à vous, mémé.
Mais qu'est-ce que c'est que cette musique?
C'est PZK, quoi, franchement. Enfin, c'est un petit groupe.
Bah,
ouais. J'ai l'impression que vous êtes choc bas. Vous êtes un véritable banger.
Mais oui, mémé, il enchaîne les bangers. C'est masterclass sur masterclass. Comme la régie, d'ailleurs, qui était en masterclass pour toute cette semaine de championnat.
Est-ce qu'on peut revoir un petit peu les équipes qui sont là et sortir, on va dire, un peu du groupe A, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me remettre ça pour avoir peut-être une vision globale? Je ne sais pas si on a perdu les droits, hein, les copains, au niveau du tableau.
Enfin, après, même quand on a les droits, ça ne marche pas, c'est le problème.
Hein. Mission impossible.
Dès que tu as éliminé le premier tour, non, ça passe. Hein.
Écoutez-le.
Oui. Oui, bon, bah voilà, c'est comme ça. Mais au moins, mémé, les duels, bah, ouais. Ça marche les duels. Si, oui. Ça marche les duels, oui. Ça marche.
Ouais. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Je pense qu'on a perdu le vent, pas. Ah, ça. Ah,
Émile
ça.
Gillet est très bien de se réveiller plutôt que de faire chez moi.
Le poignardeur poignarde, ce qui est normal. Jacouille, est-ce qu'on est prêt en régie?
Toujours pas, non. Oui, mais vous avez fait aussi un petit hors-jeu quand en fin de quiz, vous avez voulu délivrer un message de l'ordre de la troisième mi-temps, c'est important.
C'est vrai ?
Fanny Aubard,
même
sans fourchette,
ce qui n'est pas peu dire.
Fanny Aubard, je viens d'avoir un texto de Grégory Schneider, il va s'inviter aussi. Je suis désolé, voilà, c'est comme ça.
Oui, parce que vendredi dernier, quand Greg a gagné au quiz, bah, il s'est passé ça.
Greg Schneider qui va une nouvelle fois nous offrir son verre de la vie.
Merci, Greg. Greg, est-ce qu'en face d'un véritable arbitre, vous pouvez vous engager ce soir en cas de victoire dans le quiz à peut-être payer un verre ?
Bah, je vais gagner le quiz, évidemment, ouais. Mais pour autant, je ne paierai pas le verre.
Très bien. Bon, écoutez, au moins, j'aurais tenté, mais vous m'accorderez.
Oui, c'est bien.
Bon, c'est comme ça. Bon, enchaînons avec ces bons gros tacles de l'équipe du soir qui méritent des cartons rouges. C'est les jeux dangereux de la semaine.
J'y ai pris goût, mais je suis absolument pas déçu de laisser ma place à Raymond, parce que c'est logique, c'est pas comme si j'allais laisser à Ludo. Ou...
Oui, alors, pour être très franc avec vous, s'il y avait eu Ludo en balance avec vous, voilà. J'aurais opté pour vous.
Voilà,
mais c'est parce que c'est une personne que je n'apprécie pas.
Moi, il m'a appelé, la première question,
il m'a appelé en me disant, mais lui, une baffe de ma part. Non.
Il y avait une faute sur Benzema au départ, sur l'action, l'adversaire marque. Et ils reviennent à la faute de Benzema, le but annulé derrière.
Bah oui.
C'était vraiment très intéressant.
Merci beaucoup.
Il est fan absolu d'ailleurs, il en parle dans l'interview aujourd'hui dans le Parisien.
Face au lecteur Thierry Henry.
Je n'ai pas lu Dominique Sévrac.
Oui, parce que tu ne l'as pas fait, donc.
Il lit que ses éditos.
En fait, c'est assez simple parce que j'ai pris celui qui gagne ce soir.
Ouais.
Donc on va commencer par le talent de Timothée, on finira par un peu d'expertise, mais si ça vous dérange pas.
Moi, ce qui me dérange, Timothée, c'est que vous êtes à côté de celui qui perd. la présidente va trancher, c'est un oui, bah, si c'est oui, c'est Dominique, si c'est non, c'est.
Merci, mémé, je n'avais pas compris. Voilà.
Vous avez pris un bon gros tac pour le dernier.
Qui s'y frotte, c'est pique.
Bah, bien sûr. Et pour conclure, Mémé, c'est la commission de discipline, vous le savez, des matchs de suspension. Un match, deux matchs, trois matchs. Mmh. C'est comme ça que ça se passe ici pour la semaine prochaine. Et c'est maintenant, on regarde. Et pour un match de suspension, c'est Guillaume Dufy, oui, parce que Guillaume, il était content d'être avec nous cette semaine, entouré de gens qui s'y connaissent vraiment en sport.
Super plateau. Super plateau ?
Ouais. Que des mecs cool qui connaissent le sport.
Et c'est pas toujours le cas, alors.
Vos flics maintenant.
Oui, en parlant de mecs qui s'y connaissent en sport, le quiz de fin d'émission, c'était ça.
Et le thème du soir, c'est je suis champion du monde en 2006.
Oh là là.
Et oui, donc bah, champion du monde en 2006, donc forcément des Italiens. Et rappel, Guillaume, il s'y connaît en sport.
Ah oui.
Reina. Comment ? C'était Reina ?
Ouais.
C'est quoi,
c'est un gardien.
Alors, en fait, c'est un gardien. Un peu flouté, Guillaume, mais il a honte. Là, il a honte, il se cache. Regardez, il se cache.
Alors, il est comment le plateau, Guillaume ?
C'est des mecs cool qui connaissent le sport.
Allez, maintenant, pour deux matchs de suspension, c'est Eric Blanc avec des nouvelles Rico-obstruction. Tout d'abord, quand Rico parle de Brest et de Lesmélou.
Je dis Brest sans Lesmélou, c'est un porno sans Rocco Siffredi. C'est du Canada Dry.
Mais la plus grosse Rico-obstruction, bah, c'est Eric, justement. C'est quand il a dû parler de sa voiture électrique. Alors, préparez-vous. Eric, il en a gros sur la patate.
La voiture électrique, je roulais un peu plus vite. J'ai mis 3 heures.
Eric,
t'as raison. Je suis tombé en panne, j'ai pas trouvé de borne. J'ai mis 5 heures pour faire son borne.
Eric.
Non, mais c'est la réalité, je l'ai vécu. J'ai tombé en l'autoroute. Je me suis retrouvé à un supermarché un dimanche.
Retenez-vous, la marque associée à la bouffe pour longtemps encore.
Oui, mais ça s'en dit plus.
Débat parallèle.
Eric s'en dit plus sur vous, sur votre solitude dans votre vie que sur le débat.
Allez, deux matchs de suspension pour Eco, le temps de recharger l'auto. Et puis pour trois matchs de suspension, c'est encore et toujours Virginie Saint-Cilly. Ah. Tout d'abord pour cette imitation d'Mbappé.
Ah oui, oui.
Oh là, je crains le pire.
Les salaires, ils vont changer.
Ah oui, dur.
Voilà.
Allez, ouais. Bravo Virginie. Et puis nouveauté à la barre, on continue d'observer les caméras, même quand les acteurs du jeu ne sont pas censés être filmés. Ce qui nous permet de découvrir une Virginie avec déjà le rythme dans la peau. Ok. Ouh, c'était pendant un débat, ça. Mais aussi une Virginie extrêmement polie, c'est important. Oh waouh, non, pardon, non, pas très polie du coup. Ouais, également une Virginie qui fait attention à son hygiène, par contre, c'est primordial, hein, ça. Oula, oui. Ouais, bah c'est important. Bon, il va très loin, ce doigt, quand même, Virginie. Puis bon, les trois matchs de suspension, mais avant de conclure, je me permets de mettre un avertissement à Romain qui ne fait pas mieux. Désolé. Toutes les phalanges qui sont passées. C'est quand même dommage de présenter le journal du Havre et de mettre son doigt dans ce trou-là, Romain. C'est comme ça qu'on fait normalement. Pas vrai.
Merci beaucoup, monsieur.
De rien, beaucoup, mais.
Donc, c'est 3 matchs de suspension pour Romain.
Exactement.
Ah, d'accord.
Bienvenue, Romain. Romain.
Merci
au
beaucoup. Hugo, merci, on se retrouve
à la semaine prochaine.
Ok, bon, au revoir.
Merci beaucoup.
Bravo. Les jokers, nous allons jouer à présent. Ah. Fred Verdier, vous avez les deux jokers. Alors, ce soir, c'est Michel Hidalgo, qui a eu aujourd'hui 91 ans, c'est l'anniversaire du plus romantique de nos sélectionneurs des Bleus. En son honneur, le thème est le suivant. J'ai marqué un but à l'Allemagne pour l'équipe de France. J'ai marqué un but à l'Allemagne pour l'équipe de France. Réaction de Pierre Clément. J'ai inscrit un doublé contre l'Allemagne en 2017.
Griezmann.
Lacazette.
Lacazette, 4 points pour Grégory Schneider. J'ai marqué 30 buts en... Autre joueur. J'ai marqué 30 buts en 21 sélections avec les Bleus. 30 buts en 21 sélections.
Fontaine.
Fontaine. Fontaine. Ah oui, mais vous l'avez dit juste après. Ouais, ouais, non, non, c'est Fredo. 4 points.
J'ai vu que j'avais dit Fonte.
Ah. Autre joueur qui a marqué donc, pour l'équipe de France contre l'Allemagne, Vicente Lizarazu m'adresse la passe décisive sur mon but. Passe décisive sur mon but. Quelques minutes après, je suis passeur à mon tour pour Trezeguet.
Henri.
Henri, 3 points supplémentaires pour Fred Verdier. Oh,
0-3,
et le dernier pour la route, j'ai marqué 2 doublés contre l'Allemagne. J'ai marqué 2 doublés contre l'Allemagne.
Griezmann.
4 points, Grisou. On me dit oui ou non?
Il a intérêt à dire oui.
Fini. Ça va. Fini. Ouais, vous allez rejoindre.
Il y en a marre de ça. À chaque fois, on fait un jeu. On ne sait pas combien de questions il y avait.
Ouais. Ligne de l'équipe de demain?
Non.
Mais t'as bien répondu.
Romain, ligne de l'équipe de demain, vous n'êtes pas encore suspendu. Il va falloir bosser.
Ligne
de
l'équipe.
On peut la. On voyait là. Moi, je peux lire
la ligne. Montrer la ligne. Regardez. Alors, Euro avant ce France-Allemagne. Donc, il sera très important. En vue de l'Euro, évidemment.
Le débrief France-Allemagne dans l'équipe du soir de Messieurs de Bentarki. Auparavant, il y aura un Angleterre-Brésil à 20h, toujours sur la chaîne L'Équipe. À demain et à bientôt. Moi, c'est la musique, quoi de plus fantastique.